CJSO 101.7, vous écoutez Valérie Ferland, l'après-midi.
Bien qu'elle travaille beaucoup, il paraît qu'elle n'a pas fait le salaire moyen québécois le 2 janvier. Là, c'était pas fait son salaire annuel. C'est notre spécialiste en ressources humaines, la présidente du réseau Annie RH. Annie Boilard, bonjour.
Bonjour, chère Valérie. Et tu as bien raison, je n'avais pas empoché 13,2 millions de dollars après quelques heures de travail en début 2025.
C'est
parti de ces gens.
C'est complètement fou, mais comment ça marche, la rémunération des hauts dirigeants? Comment on arrive à ce genre de chiffres-là?
Là, tu te demandes, et où la personne qui, dans son bureau, regarde ça et se dit, « Ouais, je trouve que moi, ce président, ce PDG devrait mériter 13,2 millions, 15, 20 millions. » En fait, ce chiffre, 13,2 millions, c'est le salaire moyen de nos PDG, donc les gens qui gèrent des grandes entreprises publiques dans le sens ayant des actions transigées en bourse, au Canada. Eh oui, donc c'est plus de 200 fois le salaire moyen canadien. On se souvient que les ménages, en général, font 60 000 $ par année. Donc, à 13,2 millions, en quelques heures de travail, ils avaient déjà empoché notre salaire annuel.
Oui, ça a juste pas de bon sens. Pourquoi sont payés cher comme ça, ces présidents d'entreprise-là? Qu'est-ce qu'ils font?
Oui. D'abord, on aurait l'impression qu'ils ont un peu la main dans le plat de bonbons. On les imagine un petit peu auto-décider de leur rémunération en se disant ça. Là. Bon, je pense que 20 millions serait une bonne idée pour moi cette année. Réitérons que ce n'est pas ainsi que ça se passe. C'est le conseil d'administration qui est responsable de la décision sur la rémunération du PDG. Et cette décision, elle est prise sur les recommandations, soit du sous-comité rémunération ou du sous-comité ressources humaines. Maintenant, pourquoi sont-ils payés si cher? Je t'expliquerai, Valérie, dans mes mots à moi, que c'est comme si c'était une iniquité qui n'a pas de victime. Donc, je m'explique. D'abord, si une entreprise ABC décide de payer son président 20 millions, Valérie, toi et moi, on va être d'accord, ça leur lève rien dans nos poches. C'est pas nous qui sommes la victime.
Non, on peut juste être peut-être envieux. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop, là, mais on peut juste être jaloux.
On peut être envieux, c'est ça. Moi, des fois, j'ai envie de crier à l'injustice. Mais bon, ultimement, ça ne nous enlève rien. Même chose pour les coffres de l'État. Ça n'a pas rapport avec le gouvernement ne fait pas plus ou moins d'argent à cause de ça. On pourrait se dire, ce sont les employés qui sont victimes de cette injustice. Comme si on ne payait pas si cher le PDG, il resterait plus de sous dans la cagnotte pour payer les employés. Et ça, c'est pas comme ça que ça se passe, chère Valérie. Je t'explique. Une fois les salaires payés et les bonus versés, l'argent qui reste dans les coffres de l'entreprise, ce n'est pas dédié aux employés, mais bien ça devient des bénéfices non répartis, dédiés aux actionnaires, pardonne-moi. Alors, on pourrait se dire, ce sont les actionnaires qui sont les grands perdants de cette histoire. Oui, mais, je m'explique, c'est que concentré dans les mains d'une personne, 3,2 millions, c'est énorme. Mais quand c'est divisé à travers les mains de tous les actionnaires d'une entreprise, là, ça devient des bagatelles. On se parle de sous, de quelques dollars. Puis on garde en tête que pour les actionnaires, ce qui est important, puis ce qui leur fait faire du profit, c'est l'accroissement de la valeur du titre en bourse ou les dividendes payés par l'entreprise. C'est pas sauver 24 sous sur le salaire du président qui va faire une différence pour les actionnaires. Donc, tout ça étant dit, c'est un peu pour ça qu'on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de grandes victimes de cette iniquité. Et c'est un peu pour ça qu'au Canada, comme partout dans le monde, on fait face à ces iniquités sans trop trouver de solution pour y les résoudre.
OK, donc on n'en a pas de piste de solution.
Bien, il y en a quelques-unes.
OK.
T'en partage. Ça nous fait du bien au moral, hein, d'avoir un petit peu de quelque chose de positif à travers ça. T'en partage quelques-unes. D'abord, nous, au Canada, en 1993, on a instauré l'obligation de divulgation. C'était une première initiative pour solutionner ces iniquités. L'obligation de divulgation, ça l'impose à ces entreprises publiques de divulguer les salaires des 5 dirigeants les mieux rémunérés de l'organisation. Puis là, notre législateur s'était dit à l'époque, maintenant que ça devient public, bien, les gens vont garder une petite gêne. Ils vont s'auto-gérer. Ils ne pourront pas arriver avec des gros montants. Tout le monde va le savoir. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce que ça a même créé une course aux enchères, chacun des conseils d'administration voulant payer un petit peu plus cher son président que les autres. Donc ça, c'était une tentative peu fructueuse. En Angleterre, ils ont instauré le C&P, qui est une obligation pour les actionnaires de se prononcer sur la rémunération du PDG. Mais à nouveau, avec des résultats très mitigés. En Belgique, eux, ils se sont attardés à la rémunération des dirigeants des institutions publiques, mais publiques dans le sens gouvernemental. ils ont dit que personne ne peut gagner dans ces postes plus cher que le numéro un de l'État. Donc, si je mettais ça dans nos mots québécois, ça serait, voudrait dire que personne ne pourrait gérer une institution publique et gagner plus cher que notre premier ministre Legault. Mmh. Nous, notre premier ministre gagne 270 000 au Québec et c'est le 148e fonctionnaire le mieux payé de notre province. C'est donc dire qu'il y a 147 fonctionnaires qui gagnent plus que les 270 000 de notre premier ministre. Si nous étions en Belgique, ce ne serait pas possible. La dernière piste de solution que je nous partage, moi, c'est ma préférée, bien qu'elle ait des limites, mais je nous la partage, Valérie, c'est l'idée d'utiliser un pourcentage minimum entre le salaire le plus bas de l'entreprise et le plus haut employé payé dans l'organisation. Donc, c'est une idée qui nous vient des pays scandinaves. En réalité québécoise, ça voudrait dire, par exemple, que si une entreprise a un employé au salaire minimum, ça devient l'employé le moins rémunéré de l'organisation. Si on appliquait un pourcentage comme par exemple 60 %, ça voudrait dire que le PDG ne peut pas gagner plus de 2 millions par année. Et si certains trouvaient que c'était insensé parce que c'est beaucoup trop bas, 2 millions, mais on peut toujours augmenter la rémunération du président dans la mesure où on fait croître la rémunération de l'employé le moins rémunéré de l'organisation simultanément. Il faut garder le même 60 % de différence. Ça pourrait être 60, 70, 100 %, mais instaurer un maximum comme ça, ça, c'est dans les réflexions. Puis là, je te disais tantôt, c'est intéressant, mais peut-être pas magique. Les limites de cette bonne idée, c'est qu'une des raisons pour lesquelles les salaires sont si faramineux, c'est parce qu'il y a une compétition internationale qui s'opère pour avoir ces rares personnes qui ont une fiche de route qui permet de démontrer leur capacité de gérer de très grandes entreprises. Un peu comme pour les joueurs de hockey. Mm. Alors, cette idée d'un pourcentage, bien, dans la version internationale, ça nous ferait perdre des points au Québec, c'est-à-dire qu'on aurait plus accès aux meilleurs talents. C'est comme une bonne idée locale, mais c'est une mauvaise idée internationale.
Bien, Annie, en terminant, moi, je vais te souhaiter, bon, peut-être de l'argent cette année, mais surtout de la santé, parce que c'est encore plus précieux.
Tellement d'accord avec toi, chère Valérie. Et toi aussi, à tous nos auditeurs, une bonne année 2025.
Merci, Annie Voilard. On se retrouve la semaine prochaine.
Parfait.